Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si vous êtes inquiet pour la santé mentale des adolescents, vous allez capoter. Je pense que c'est le mot en lisant cette lettre ouverte écrite par 500 psychologues. Une lettre ouverte Faites la différence, publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Des psychologues, donc, qui demandent au gouvernement de prendre tous les moyens pour régler la pénurie de psychologues parce que la situation de la santé mentale des adolescents est extrêmement inquiétante. On va en parler avec Dr. Karine Gauthier, elle est psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. Dr. Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Dr. Gauthier, j'ai lu votre lettre. Je suis mère d'un adolescent de 13 ans et j'ai capoté, je m'excuse d'utiliser cette expression-là, parce que ce dont vous nous parlez, c'est rien de moins qu'une épidémie de problèmes de santé mentale chez les adolescents.
Oui, on voit vraiment une augmentation des problématiques là, qu'on parle de symptômes dépressifs importants, avec une augmentation au niveau des hospitalisations pour des tentatives de suicide. On parle d'anorexie aussi, de troubles anxieux, mais qui mènent à des visites à l'urgence et à des hospitalisations. Là, on parle de 40% environ des lits dans les hôpitaux pédiatriques qui sont présentement dans le fond comblé avec des jeunes qui ont des problématiques de santé mentale très importantes puisqu'ils doivent être hospitalisés là. On s'entend que c'est ça veut dire que c'est rendu très très sévère, puis ça montre juste comme d'autres l'ont dit, juste la pointe de l'iceberg là, de toutes les autres,
la partie visible,
pas à l'urgence puis pardon.
J'ai dit la partie visible de l'iceberg, parce que si ça se rend, s'ils se rendent jusque dans le système de santé, alors, s'ils sont hospitalisés, c'est parce que la situation est particulièrement grave, mais il y a tous ces invisibles qui souffrent tout autant, c'est juste qu'on les voit moins parce qu'ils atterrissent pas dans le système de santé.
Oui, exactement. Donc, c'est ce dont je parle un peu dans la lettre, dans le sens que on voit auprès des jeunes qui essayent d'aider d'autres jeunes qui n'ont pas accès à des services, justement, là, ceux qui sont invisibles, on les voit un peu indirectement avec les psychologues qui suivent des adolescents, tu sais, qui nous parlent de leurs amis, là, finalement, là, qui essayent d'aider là, ce qui est impossible pour eux de faire là, quand on parle de problèmes de santé mentale importants. On a besoin de soins spécialisés et de psychologues pour aider.
Est-ce que tout ça est relié à la pandémie ou ce sont des problématiques qui dataient d'avant? Dans quel pourcentage ça a été augmenté ou aggravé par la pandémie?
Bien, là, dans les statistiques, c'est ça qui sont sortis, là, il y en a diverses, là, mais on parle, tu sais, pour les hospitalisations, ça l'a plus que doublé. Au niveau, ça concorde avec des études aussi, là, par rapport à l'augmentation des problématiques de santé mentale. C'est au moins le double qu'on parle présentement, là, si on regarde plusieurs variables ou même plus, là, les troubles alimentaires, là, on parle de 4 fois plus. Donc, il y a vraiment une augmentation importante.
Alors, ce que vous nous décrivez dans cette lettre là, qui vraiment donne froid dans le dos, c'est ça, c'est des jeunes qui, dont dans certains cas, font des tentatives de suicide. Est-ce que on a des chiffres sur des cas réels de suicide?
Je crois pas. Je pense que les chiffres qui sont sortis, c'est par rapport aux tentatives de suicide. En tout cas, à ma connaissance, là, je peux pas vous dire ça d'une façon certaine, mais à ma connaissance, c'est par rapport aux tentatives de suicide. J'ai pas les chiffres par rapport vraiment au suicide, là. Mais c'est sûr que les tentatives, tu sais, ça va pas dans la bonne direction parce que peut mener à un suicide, là, mais j'ai pas les chiffres par rapport aux tentatives de suicide. Puis pour revenir à votre question précédente, dans le fond, on voit une augmentation, mais déjà, il y en avait vraiment beaucoup hein, de mm-hmm. difficultés.
D'anxiété, oui.
Des difficultés d'accès, d'anxiété, de dépression avant la pandémie et des difficultés d'accès vraiment, vraiment importantes. Là, certaines écoles qui n'ont même pas de psychologue ou sinon, c'est 1 par 2 000 élèves, 3 000 élèves, par exemple, si on parle de, dans le système scolaire, où c'est vraiment une belle porte d'entrée là, pour pouvoir intervenir auprès des jeunes rapidement, là, finalement. Là.
Et ce dont vous parlez également dans cette lettre-là, c'est que, il y a cette pénurie, et ce qui fait en sorte aussi que dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de milieux, alors qu'on devrait faire appel à un psychologue, on fait après appel à d'autres spécialistes, mais ces spécialistes-là n'ont pas les connaissances fines pour pouvoir justement traiter un problème de santé mentale. Donc, c'est comme si on ne reconnaissait pas la spécificité, et le professionnalisme et les compétences requises pour qu'on fasse appel à un psychologue.
Oui, c'est exactement ce qu'on remarque malheureusement là, de plus en plus de nos membres qui nous écrivent pour nous dire OK, il y avait un poste de psychologue, mais il est resté vacant à cause qu'on a des problèmes vraiment graves d'attraction, de rétention aussi. Donc, les postes restent vacants, donc les gestionnaires, malheureusement, décident de les transformer comme si c'était du pareil au même, mais ce n'est pas la même chose. Un psychoéducateur, un psychologue, c'est pas la même chose. Un travailleur social, un psychologue, c'est pas la même chose. Puis mm-hmm. pas dans le sens qu'on est meilleur qu'eux, c'est juste que c'est pas pareil. Moi, je travaille dans des équipes multidisciplinaires où il y a une travailleuse sociale qui est impliquée, une psychoéducatrice et moi-même psychologue avec la même personne parce que nos rôles sont différents dans des cas vraiment, tu sais, sévères. Donc, c'est vraiment des rôles distincts, mais on sent pas que cette différence-là, ben c'est pas juste pas le sentir, c'est des faits, là. Je veux dire, il y a les postes qui sont remplacés par d'autres professionnels. Donc, ça, on trouve ça très, très inquiétant. Au lieu d'adresser le problème à la source puis de dire, OK, il manque de psychologues, c'est que, OK, bon, on va engager un autre professionnel. OK, ben, on va engager un autre professionnel. Donc, on voit vraiment cette tendance-là depuis plusieurs années, là, quand même, qu'on voit les postes qui sont remplacés à cause des difficultés de recrutement, finalement, de cette main-d'œuvre. Ouais.
Vous nous encouragez dans cette lettre, Dr. Gauthier, à écrire à participer à une pétition. C'est quoi cette pétition-là et pourquoi on devrait la signer?
Bien, dans le fond, la pétition demande au gouvernement de régler la problématique là, de pénurie de psychologues dans le réseau public, de vraiment l'adresser, de prendre tous les moyens possibles pour faire en sorte que les psychologues reviennent dans le réseau public. Parce qu'on sait que, dans le fond, pour combler les besoins à main-d'œuvre, on devrait recruter 100% des finissants au doctorat. Alors que présentement, c'est 25%. Donc, il y a vraiment une problématique. Puis, on le voit d'année en année, le nombre de psychologues diminue dans le réseau public. Donc, c'est pour ça la pétition. C'est pour dire que si vous êtes d'accord de dire on veut des psychologues, on veut qu'il y ait des actions qui soient faites pour qu'on ait accès à des psychologues dans les écoles, dans les CLSC, dans les hôpitaux, dans les centres de jeunesse, la DPJ, dans les centres de réadaptation, dans le fond, dans toutes les sphères du réseau public pour que cette main-d'œuvre-là reste, parce qu'on craint vraiment une extinction de la profession dans le réseau public, que ça devienne comme un luxe pour les gens qui peuvent aller consulter au privé, mais que finalement, dans le réseau, on voit une diminution mm-hmm. vraiment importante de cette main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça la pétition. C'est à l'adresse www.coalitionpsy.org /pétition, si ça vous intéresse d'aller la signer. Je pense que ça donnera un beau message aux décideurs de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'accès aux psychologues.
Et aussi, ben, dans votre lettre, un argument qui est assez intéressant, c'est l'idée d'économiser des sous. C'est-à-dire que si on investit dans la santé mentale, ça va avoir des répercussions. Alors, expliquez-nous votre schéma de pensée, le calcul que vous faites pour en arriver à dire que au final, on va économiser des sous.
Oui, bien c'est dans le fond ça vient de recherches là qui ont démontré qu'il y avait vraiment des diminutions en termes de coûts d'hospitalisation, de coûts en termes d'arrêt de travail aussi. Donc vraiment dans le fond on sauverait vraiment beaucoup d'argent là. On parle de d'environ 22% des coûts d'hospitalisation qui seraient diminués. Puis j'ai fait un calcul juste avant de vous parler là, on parle d'une hospitalisation c'est en moyenne 6 000 $, OK? Puis là, j'ai calculé, c'est presque 100 séances de psychothérapie pour ce jeune-là qu'on aurait pu lui donner. Mais là, on parle quand il est hospitalisé, c'est pas réglé son problème. L'hospitalisation, c'est juste pour le maintenir en vie, là, on s'entend. Là. C'est un jeune qui est très suicidaire ou c'est un jeune qui a de l'anorexie dont les signes vitaux, il est à risque, là, il peut faire un arrêt cardiaque, puis tout ça, c'est ces genres de cas qui sont, c'est ces genres de situations-là qui se présentent là, dans les hôpitaux pour qu'un médecin décide d'hospitaliser. Mais si on était intervenu plus tôt, ben là, on s'entend que tu sais, c'est rare là, que ça prend autant de séances, mais bon, juste pour faire le calcul, si on intervenait plus tôt, on aurait vraiment vraiment moins de coûts associés finalement, parce qu'après l'hospitalisation, le jeune a besoin de soins. Là. Fait qu'on n'économise pas en termes de soins. Donc, les études, c'est ça, démontrent, là, tu sais, 22%, c'est quand même un chiffre énorme là, en termes de coûts. Puis il y a tous les coûts associés aux médicaments aussi, le psychotrope, les antidépresseurs, les anxiolytiques qui sont de plus en plus prescrits aux jeunes, aux adolescents. On voit aussi une grande augmentation. Puis ça, il y a des coûts pour le Québec qui sont vraiment importants. Donc, ça serait une économie aussi en termes de remboursement là, par la RAMQ des médicaments pour les symptômes dépressifs ou d'anxiété finalement. On parle d'économie en termes d'appel à la police. On a vu là les policiers là, disaient qu'il y avait de plus en plus les ambulanciers aussi d'appels par rapport à des problématiques qui sont reliées à la santé mentale. Donc ça engendre des coûts évidemment aussi. En plus de la détresse souvent chez les intervenants là, qui se disent pas très équipés ou en tout cas qui se sentent un peu dépourvu, puis les visites médicales. Les pédiatres sont sortis aussi cette semaine pour dire qu'ils sont pas équipés nécessairement pour traiter toutes les troubles de santé mentale. Là, c'est 50% de leurs visites qu'ils rencontrent dans leur bureau présentement. Donc, ça aussi, ça a des coûts faramineux sans que la personne ait nécessairement les services dont elle a besoin, on s'entend, là. Donc ça serait une économie vraiment importante pour le Québec. Donc, quand on dit de, tu sais, justement, là, OK, là, avec la pandémie, on doit serrer la ceinture, mais c'est une façon de le faire.
Absolument.
Au lieu que les gens se présentent à
c'est un investissement.
C'est un investissement, vraiment. Il faut le voir comme un investissement. Donc, pour ça qu'on a terminé l'alerte avec moins de souffrance et moins de dépenses. Donc,
C'est toujours le bon vieux principe d'investir en amont plutôt qu'en aval et d'investir dans la prévention plutôt que dans le soin. Là, on a l'impression qu'on fonctionne très souvent comme ça au Québec, en tout cas en termes de santé. Pas juste la santé mentale, mais dans d'autres domaines de la santé aussi. Il y a tellement de choses qui pourraient être évitées, tellement de problématiques qui pourraient être contrôler ou apaiser avec une bonne prévention et on le fait pas, puis on attend que le bobo, que l'abcès éclate et là on se retrouve avec des hospitalisations. Vous nous avez parlé, docteur Gauthier, de différentes manifestations de cette détresse. Bon, évidemment, la plus extrême étant la tentative de suicide. Vous nous avez parlé également de troubles anorexiques, mais j'imagine qu'il y a tout un éventail. Donc, s'il y a des parents d'adolescents qui nous écoute, c'est quoi les signes qu'on devrait surveiller chez nos ados?
Mais c'est ça, c'est des changements dans leur comportement, de l'isolation, qui vont comme plus se retirer, ou ça peut être des excès le plus de colère ou de l'irritabilité, même de la violence des fois, parce que les symptômes dépressifs là, c'est pas juste on manque de motivation, on reste couché dans notre lit, là, il peut avoir là chez certains adolescents là plus d'aller vers aussi des solutions là comme l'automédication avec de l'alcool ou des drogues là, tu sais, on l'a vu aussi, il y a une augmentation, j'en ai pas parlé, mais il y a une augmentation aussi des problèmes de dépendance chez les adolescents là. Donc les gens se trouvent finalement
Des exutoires.
Ils peuvent se trouver des solutions eux-mêmes qui sont pas idéales du tout. Donc c'est ça souvent qu'on remet. Le sommeil, tu sais, des perturbations au niveau du sommeil. Souvent quand la personne commence à, tu sais, soit avoir plus de symptômes, c'est des symptômes d'anxiété importants ou de dépression. Soit que la personne peut dormir plus ou dormir moins. Donc des changements de cet ordre-là. Que ça serait important de parler avec le médecin ou de contacter l'accueil psychosocial du CLSC. Puis il y a toujours les lignes d'appel aussi s'il y a des inquiétudes.
Absolument, c'est toujours important
au suicide. Et l'urgence, évidemment, là, faut y aller quand on s'inquiète, quand les parents s'inquiètent par rapport à la sécurité de leur enfant. Faut aller à l'urgence aussi.
Bon, ben écoutez, on va aller signer cette pétition. On va garder un œil sur nos ados et on va continuer d'être extrêmement vigilants. Mais c'est une réflexion en tout cas qui s'impose, c'est sûr, en cette période aussi trouble. En même temps, les nouvelles sont bonnes, docteur Gauthier. Premier ministre François Legault nous l'a dit hier, là, la vaccination, ça va quand même régler beaucoup de problèmes. On envisage un retour à la normale et une socialisation aussi pour les ados, pour les jeunes, qui va quand même être très salutaire. Mais il faut continuer d'être vigilant. Docteur Karine Gauthier, donc vous signez cette lettre qui est co-signée par 500 psychologues dans la section Faites la différence, donc pour demander plus de psychologues pour qu'on prenne mieux soin de notre santé mentale. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.